Bonjour à chacun. C'était visible dans nos prières, c'était visible au travers du choix de nos chants. Nous vivons des événements tristes. Et ce matin, il m'est impossible de prendre la parole sans les mentionner. Mentionner ces événements tristes que notre monde, notre France et notre capitale a vécu vendredi soir. J'ai appris ces événements par un message sur Facebook. Arrêtez les mecs, avec un excellent hashtag que je n'ai pas arrêté de voir par la suite dans de nombreux messages. Prie pour Paris et cette fameuse image que j'ai pu voir aussi par la suite sont les principaux messages que j'ai vus dans les réseaux sociaux depuis vendredi soir. Nous avons été nombreux, chrétiens, au nom, croyant au nom, à être attristé par l'horreur de ces événements et de manière consciente ou inconsciente, avec ce hashtag, ce message que nous avons mis dans nos messages sur Facebook, nous demandons de l'aide à Dieu. En tant que chrétiens, nous voulons manifester, nous devons manifester notre solidarité pour les proches des victimes et continuer à prier pour ces familles et pour notre pays, et également pour que Christ et son message de paix, réconciliation et de joie soient acceptés dans notre pays et notre monde. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il est légitime de ressentir de la tristesse, de l'incompréhension et même une colère juste. Mais nous ne pouvons pas être gagnés par la haine, parce que nous avons un Sauveur qui pleure sur un monde dans la douleur. Ce matin, nous verrons que Jésus pleure sur un monde dans la douleur. On va lire ensemble Jean 11, versets 1 à 57. Stéphane a mentionné un verset dans ce chapitre et nous allons le lire en entier. Jean 11. Et vous pouvez suivre avec moi, c'est affiché sur le mur. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi. » Mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui vinrent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Ce texte nous montre que Jésus est un sauveur qui pleure sur un monde dans la douleur. Nous verrons que Jésus est en larmes, plein de tristesse, pour mettre fin à notre détresse. Lazare semble être très proche de Jésus. Le texte nous dit que les deux sœurs, Marthe et Marie, font appel à Jésus en disant « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». J'insiste sur les paroles qu'on a lues « Celui que tu aimes ». Plus nous nous approchons de Jésus et plus nous réalisons à quel point il nous aime. J'ai été invité récemment à un mariage d'un ami. Et à chaque fois qu'on parle ensemble, il prend vraiment du temps. Je sais qu'il m'aime. mais à son mariage, j'étais impressionné par le nombre de personnes qui étaient présentes là. Et il fait ça avec énormément de ses amis. Sa volonté à faire ça avec chacun de ses amis montre vraiment son amour envers chacun d'eux. Et j'étais vraiment impressionné par les amitiés qu'il arrive à développer avec autant de personnes. Plus nous nous approchons de Jésus et plus nous réalisons qu'il nous aime vraiment. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ dépassent notre compréhension. Lazare, celui que Jésus aime, est malade. Mais qu'est-ce que fait Jésus quand il sait que Lazare est malade? Il reste encore 2 jours là où il est. C'est étrange comme décision, parce que le texte dit clairement au verset 5 et 6, « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. » S'il aimait Marthe, s'il aimait Marie, s'il aimait Lazare, pourquoi ne s'est-il pas déplacé tout de suite? Quand il arrive sur place, cela fait déjà 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Et beaucoup de monde était réuni déjà pour consoler Marthe et Marie. Jésus montre ici son amour par un délai d'attente. Jésus montre ici son amour par un délai d'attente. À l'époque, il n'y avait pas une médecine aussi développée que maintenant. Beaucoup de monde dans le passé a été enterré sans être vraiment mort. Mais ici, Jésus montre son amour en laissant passer quelques jours pour que tout le monde voit qu'il pouvait vraiment faire des miracles, y compris une résurrection. Jésus savait très bien qu'il pouvait ressusciter Lazare, mais devant le tombeau de son ami, son visage est plein de larmes. Jésus est devant le tombeau en larmes, plein de tristesse. Pourquoi Jésus pleure réellement? Bien évidemment, Jésus est triste. Triste par la mort de son ami dans son humanité. Mais Jésus voit dans ce moment de tristesse aussi un monde sans espérance. Il voit dans ce corps, dans le tombeau, le fait que le monde a mis Dieu sur le côté, a mis Dieu de côté, et forcément le péché, le mal et la mort règnent. La souffrance et la mort en particulier nous font pleurer parce que cela ne devrait pas exister. Elle n'existe que depuis le moment tragique de l'histoire de l'humanité où l'homme, avec un grand H, a décidé de vivre sans Dieu. C'est une folie d'abandonner Dieu. Et sans Jésus-Christ, depuis, le monde court à sa destruction. Quelle est la solution? Jésus. Revenir à lui. Ses larmes de tristesse, c'était pour mettre fin à notre détresse. Nous pouvons dire que les larmes de Jésus dans ce texte annonçaient celles qu'il a connues plus tard sur la croix. Hébreux, chapitre 5, verset 7, il est écrit que pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 3, nous pouvons voir que Jésus a été méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est souciée de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. L'histoire de Lazare pointe vers la mort et la résurrection de Jésus et également vers la résurrection finale. La Bible dit en Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après notre mort, chacun de nous va se présenter devant Dieu. Mais tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont cru que Jésus est la résurrection et la vie, vivront une vraie vie pour l'éternité. Je lis Apocalypse chapitre 21, verset 4. « Il, c'est-à-dire Dieu, essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Le grand prêtre Caïphe, à l'époque, a fait une prophétie. Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Cet homme, c'est Jésus. Et sa mort, ses souffrances, visibles dans ses larmes de tristesse, mettront fin à notre détresse. Je ne peux finir qu'en disant que oui, nous devons prier. Prier pour demander de l'aide à notre Dieu. Reconnaître notre rébellion vis-à-vis de Dieu et croire que Jésus est la résurrection et la vie. Prier pour demander de l'aide à Dieu car seul lui peut vraiment essuyer nos larmes. Seul lui peut te sauver. Seul lui peut sauver notre monde. Marthe et Marie ont fait appel à Jésus. Faisons également appel à Jésus par nos prières. Nous devons reconnaître notre rébellion vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. La souffrance et la mort ne sont que la conséquence visible d'un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. Nous avons mis de côté Dieu. Nous faisons nos propres dieux ou nous nous élevons à la place de Dieu en faisant ce qui nous semble bon. Et le résultat est bien catastrophique. Nous ne prenons pas tous des armes, mais combien de fois nous avons été remplis de haine? Combien de fois nous avons fait du mal aux gens qui nous entourent? Combien de fois nous nous sommes réjouis du malheur des autres? Acceptons le pardon gratuit de Dieu. Christ est mort pour des pécheurs comme moi et vous. Il est mort pour que des pécheurs comme moi et vous puissent vraiment vivre. Il a été crucifié en subissant la condamnation que nous méritons. L'opportunité nous est encore donnée aujourd'hui, maintenant, de nous réconcilier réellement avec Christ, de nous réconcilier vraiment avec Dieu, notre Créateur, en lui demandant sincèrement pardon. Nous l'avons vu, la mort est une réalité. Et il faut qu'on soit prêt à rencontrer celui qui nous a créés. Nous devons croire que Jésus est la résurrection et la vie, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus est Dieu. Et ce Dieu a montré son amour en s'approchant des hommes qui lui avaient tourné le dos. Il est venu pour montrer son amour et sa justice en mourant injustement pour des injustes. Nous pouvons recevoir sa justice si nous croyons qu'il a pris notre injustice à la croix. Aujourd'hui, Jésus peut essuyer déjà en partie nos larmes par un repos, une paix qui viennent de lui. Et un jour, il le fera totalement pour ceux qui ont fait appel à lui, qui ont reconnu leur rébellion et qui ont cru que Jésus est la résurrection et la vie. On va prendre un temps de silence où chacun pourra prier et ensuite nous chanterons un chant plein d'espérance, un chant qui a traversé des générations et un chant qui a des paroles vraiment pleines d'espérance. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Amen. Prenons donc un temps de silence où nous pouvons prier.